Vous écoutez RTL.
RTL, il est 14h02. Bonjour les petits curieux.
Salut Christelle.
Salut Christelle. Alors on a deux grands thèmes comme chaque jour dans la curiosité. Tout à l'heure, tiens, on va vous proposer dans quelques minutes un super-héros. Un super-héros tout mou mais hyper fort, le ver de terre.
Et puis il était petit et grand à la fois tout à l'heure. Vers 14h30 sur RTL, on vous racontera l'histoire de Pépin le Bref. Petit par la taille, d'où son surnom, mais grand comme la France, qu'il a légué à son fils Charlemagne. On se demandera aussi si sa femme, surnommée Berthe au grand pied, chaussait vraiment du 42.
Et puis depuis ce matin sur RTL, on rend hommage à Jean Piat. Et nous aussi, dans cette émission, dans la curiosité, on voulait se souvenir de ses grandes tirades. Écoutez ce comédien.
Madame ma tante, tout est perdu.
Avez-vous perdu, Robert? Un autre procès?
Oh, je ne ris pas, ma tante.
Le moment est malvenu.
Nous sommes dans la main du roi.
Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse.
Notre mariage n'aurait pas tenu plus d'une semaine. Mais il nous reste les lettres, mon amour, il nous reste les lettres. On peut continuer à s'écrire, on pourra toujours s'écrire.
Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Jean Piat, immense acteur qui s'est éteint hier soir à l'âge de 93 ans. Vous l'avez entendu, il a incarné Robert d'Artois dans la série Les Rois Maudits, Cyrano de Bergerac au théâtre et plus récemment encore la tirade des nez au théâtre Love Letters. Bonjour cher Thomas, vous allez bien?
Bonjour Sidonie, bonjour à tous. Love Letters, c'était un texte écrit par sa femme, Françoise Dorin. J'avais eu la chance de voir Jean Piat au théâtre sur scène il y a quelques années dans un autre texte signé Françoise Dorin. Vous avez quel âge? Alors c'était génial parce que c'était déjà un vieux monsieur mais il était espiègle comme un gamin et il parlait justement du temps qui passe. Tiens Jean-Pierre, pour les plus jeunes, c'est aussi une voix au cinéma dans des grands rôles de doublage. Écoutez bien.
La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Tu remercies ainsi celui qui t'a recueilli et élevé comme son fils.
Je suis navré, maître.
Oh, mon cher Quasimodo, tu ignores comment c'est en bas. Moi, je le sais, sois-en sûr.
Les ténèbres m'entourèrent et je m'égarais hors de la pensée et du temps. Les étoiles tournaient au-dessus de moi et chaque jour était aussi long qu'une existence sur la terre.
Et on est sûr que vous aurez reconnu le Seigneur des Anneaux. Il incarnait Gandalf, Frollo dans le Bossu de Notre-Dame ou le méchant Scar dans le Roi Lion.
Jean-Pierre, d'ailleurs, qui n'avait pas peur de la mort. J'adore ce qu'il disait. On est, on vit, on meurt. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, la curiosité commence.
Allez, la curiosité commence. On ouvre notre armoire et plus précisément le tiroir Histoire naturelle.
Oui, elle est riche, cette histoire naturelle, cette nature, mais on la connaît mal et c'est son drame et sans doute notre drame aussi. Pourquoi le ver de terre est notre futur? C'est ce qu'on va découvrir maintenant avec notre invité Christophe Gatineau. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome et vous poussez un cri d'alarme. Pourquoi le ver est notre avenir?
Pourquoi le ver de terre est notre avenir? En fait, disons que notre avenir dépend du ver de terre. Alors, parce que notre avenir dépend des sols, en fait. Notre nourriture, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié. On s'imagine qu'on va le retrouver, qu'on va la chercher à Leclerc, Carouf ou au champ, hein, bien évidemment, quoi.
Mais avant, il y a des champs.
Ce ne sont que des intermédiaires. Hein, ce ne sont que des intermédiaires et la nourriture provient en majorité, pour 95%, suivant votre alimentation, soit des océans, soit des sols. Et malheureusement, les sols sont dans le même état que les océans.
Des vers de terre, il y en avait combien dans un hectare de champ, par exemple, il y a 50 ans, et combien il en reste aujourd'hui?
En fait, il faut bien distinguer les milieux naturels, en fait, où les vers de terre sont encore présents, des milieux cultivés, notamment des sols céréaliers. C'est surtout là où est le drame, en fait, c'est dans ces sols céréaliers, dans ces sols où on fait de la monoculture, la biodiversité a disparu et la colonne vertébrale des sols, le ver de terre en fait. Alors pourquoi c'est la colonne vertébrale des sols? Tout simplement parce que, certes, c'est la première biomasse terrestre, animal terrestre, mais dans un sol, il peut être présent jusqu'à 80% en fait. Hein, 80% des êtres vivants dans un sol sont constitués de vers de terre en fait. Et il est évident que le ver de terre, il ne faut pas le voir en tant que seulement un animal, mais c'est aussi la colonne vertébrale d'un système, en fait, qui intègre évidemment le monde bactérien, les champignons, etc.
Mais, voilà. Mais pour répondre à la question que posait Sidonie, pour se donner un ordre de grandeur, il y a 50 ans dans un champ, dans un sol...
Alors, je vais vous prendre des exemples.
Ça se calcule en poids, en nombre de vers de terre.
On va prendre l'exemple d'une prairie normande, hein, c'est-à-dire une prairie naturelle, ouais. Où il n'y a pas eu de pesticides et en zone humide. C'est important. Hein, le vers de terre a besoin d'une certaine humidité. C'est l'humidité liée à son activité. Enfin,
c'est comme ça qu'il respire, c'est ça, ouais.
C'est comme ça qu'il respire, mais surtout il a besoin de cette humidité et puis il a besoin de matière organique aussi pour survivre. Alors dans un champ, dans une prairie normande, on pouvait avoir jusqu'à 4 tonnes de vers de terre à l'hectare. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente environ 5 vaches, j'aurais envie de dire normandes, mais je préfère Limousine, hein, étant donné Limousin, bien évidemment.
Quoi, donc voilà. 4 tonnes par hectare, et aujourd'hui, dans les pires champs.
Là,
dans
on
les
est vraiment
champs.
Sur la, le,
oui, oui,
le haut.
Au sommet.
Dans un sol cultivé de type céréalier, cultivé en organique et non pas en chimie, c'est-à-dire sans pesticides, on est aux alentours d'une tonne de 150. Hein. Bon, faut prendre les chiffres avec des pincettes. Aujourd'hui, cultivé à la chimie, dans certains sols de Beauce, on est à 50 kilos.
Donc qu'est-ce qui tue?
Attends, 50 kilos?
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vers de terre.
Ils ont disparu de ces sols-là.
Ils ont disparu, c'est-à-dire que les animaux, la vie a disparu des sols. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le ministère de la Transition écologique a lancé il y a quelques mois un cri d'alarme par rapport au sol, en fait. Hein. Un quart des sols en Europe sont victimes d'érosion et les autres sont en train de suivre. Victimes d'érosion, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils sont en train de devenir des déserts. C'est-à-dire que la terre s'en va rejoindre les rivières et les océans.
La terre est à bout de souffle, en quelque sorte. Christophe Gatineau, pour bien comprendre, qu'est-ce qui tue ces lombrics, ces vers de terre? Vous l'avez dit, c'est le labour excessif et aussi l'utilisation des pesticides?
Non, je n'ai pas dit le labour, justement. Voilà. C'est, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles, notamment une qui accuse le labour, hein, évidemment.
Quoi le labour d'ailleurs? Parce que j'emploie ce mot, mais...
Le labour, en fait, ça veut... Le mot est assez large, c'est-à-dire autrefois quand on labourait, en fait, on retournait les racines des plantes à la surface du sol. Aujourd'hui, quand on laboure, on va labourer à 30 voire 40 cm dans certains et l'objet, en fait, c'est de retourner la terre, c'est-à-dire de mettre la matière organique sous la terre.
Ah, donc ça, c'est bien. Le labour, c'est bien, mais qu'est-ce qui tue les vers de terre dans le sol? C'est ça que j'aimerais comprendre.
En fait, voilà, toute la nuance, si vous voulez, c'est dans le fait de remuer la terre. C'est-à-dire que si on remue la terre en laissant la matière organique à la surface, c'est-à-dire que là où ça fabrique la fertilité, quoi, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que là où les animaux viennent se nourrir, il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous labourez pour retourner la matière organique, c'est-à-dire la nourriture à 30 cm sous terre, en fait, le cycle est rompu. Alors, il y a évidemment, il y a 50 ans, on a cessé de nourrir les sols, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé d'une fertilisation qu'on appelle organique, à partir de matière organique, on a nourri directement la plante avec la chimie, en fait. Hein, voilà. Donc en cessant de nourrir la vie du sol et en nourrissant directement les plantes, certes on a fait des économies, certes on a fait exploser les rendements, mais évidemment... sont arrivés les pesticides et là la vie du sol a commencé à s'effondrer. J'en ai pour preuve, en fait, que Darwin lui-même au 19e siècle s'étonnait que dans des sols qui étaient bêchés, il foisonnait de vers de terre.
On a envie de le découvrir de plus près, ce vers de terre, savoir comment il fonctionne, comment il se reproduit, où se trouve son sexe, est-ce qu'il a une bouche, des yeux, des oreilles, un cœur. On découvre tous ses secrets de fonctionnement dans un instant sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
RTL.
Alors, c'est une espèce de verre un peu particulière.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce sont des Essenia fetida andrei, on dit en latin.
La curiosité est un vilain défaut.
Là, dans un andin comme ça, vous avez facilement plusieurs milliers de verres.
L'éloge du ver de terre, voilà ce qu'on vous propose dans la curiosité aujourd'hui sur RTL. C'est d'ailleurs le titre du livre de notre invité Christophe Gatineau. Notre futur dépend de son avenir. C'est le sous-titre de votre livre publié chez Flammarion. On entendait un lombricologue parler de la multitude de vers de terre. Quand on dit ce mot-là, ça représente... Il y a beaucoup d'espèces, tiens, différentes de vers de terre.
Quand on parle du vivant, on parle du ver de terre. En fait, sur la planète, il y a environ on imagine entre 5000 et 6000, 7000, peut-être 8000. On en découvrira peut-être d'autres. C'est toujours un peu la difficulté quand on parle du ver de terre. En fait, c'est de quelle espèce on parle en fait, parce qu'il y a des très grandes différences. Autrefois, les paysans, les choses étaient un peu plus simples. Ils disaient les vers de terre, donc ceux qui vivent dans la terre, et les vers de fumier, ceux qui vivaient à la surface. Mmh. Aujourd'hui, les vers de compost, par exemple, qui ne sont pas des vers de terre, mais qui sont des vers de surface, qu'on retrouve d'ailleurs très peu dans les champs, mais qu'on va retrouver dans les composts, la lombriculture, en fin de compte, etc. Ces vers n'ont rien à voir, par exemple, comparé aux lombriques terrestres, le vers de terre commun qu'on rencontre le plus communément dans les sols, en fait.
Et c'est celui dont on parle avec vous aujourd'hui, ce ver de terre commun, on va dire le lombric. Comment il se reproduit ? Tiens, on va poser quelques questions comme ça d'anatomie. Vous pouvez faire des réponses rapides, si vous voulez. On n'est pas obligé de rentrer trop dans les détails. Alors, comment il se reproduit ?
C'est tout à fait intéressant, votre question, parce que quand on parle du ver de terreau, par exemple, lui, il se reproduit tous les 40 jours. Tous les 40 jours, il donne naissance à plus d'une centaine de nouveaux vers, etc. Et si on prend le lombric terrestre, en fait, lombric terrestre, il arrive déjà à maturité sexuelle à l'âge de 9 mois. Voilà. Il commence à se reproduire à l'âge de 9 mois, il se reproduit qu'une fois par an, il va donner au mieux quelques dizaines de spécimens.
En fait. Et il vit combien de temps d'ailleurs parce que 9 mois, ça ne semble pas beaucoup.
Il peut vivre le même temps en fait, qu'un chien de race, c'est-à-dire 8 ans. Quoi. Donc c'est vraiment un animal à part entière. Et d'ailleurs, je crois qu'il est vraiment important de préciser qu'aujourd'hui, la science définit ce qu'on appelait autrefois sa galerie comme un terrier, en fait, comme le terrier d'un lapin, un terrier avec des étages où il va entre poser de la nourriture.
Comment il se reproduit le ver de terre ? Ça se passe comment ?
Il y a un papa et une maman ?
Oui, il y a un mâle, une femelle, il y a un sexe déjà ?
Il fait les deux, en fait, tout simplement. En fait, le lombric terrestre sort la tête de son terrier, regarde s'il y a un voisin qui est disponible, parce que en fait, il reste toujours, par mesure de sécurité, la queue, entre guillemets, accrochée à son terrier, parce que si un prédateur se présente, ça lui permet de revenir. Et en fait, il s'accouple, tout simplement.
Il se frotte, ça se passe comment, vous savez ?
Il se frotte, non, ça dure assez longtemps. Ah ouais. Vraiment, c'est... Moi,
vous avez observé ça ?
Mais oui.
Alors,
parce qu'en fait, c'est ce qui a motivé probablement cette écriture. Vous savez, il faut des fois des éléments déclencheurs. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait un amas gluant sur le sol et je me suis approché, puis j'ai observé et j'ai voulu toucher, voilà, et dès que j'ai touché, on aurait dit deux élastiques qui se détendaient. Et j'avais jamais remarqué cette chose-là. Et immédiatement, j'ai pris une pelle, j'ai creusé pour essayer de retrouver. Non, ils étaient repartis chacun dans leur terrier à 1 ou 2 mètres de profondeur. J'ai une terre qui est très profonde.
Donc vous avez dérangé un duo en plein acte de reproduction.
Absolument.
Est-ce que vous avez pu au moins localiser le sexe du ver de terre ? Ça se trouve où sur un... Parce que nous, on voit une sorte de petit tube tout moelleux, tout mou.
Pour faire très simple, en fait, il se colle, il s'échange du spermatozoïde et après, bon, il y a les œufs, etc. Enfin bon, là, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais
respectons l'intimité du ver de terre, je suis d'accord.
C'est très important.
Oui. Est-ce qu'il a des yeux, des oreilles ? Comment il se...
Les oreilles, j'en ai jamais observé, pour être honnête. Ouais. Je veux dire, c'est vrai que... Il n'a pas d'oreilles, il n'entend pas. Il perçoit plus ou moins les vibrations, mais... Mm-hmm. Au niveau de la lumière, il a des cellules photosensibles, en fait.
Pas d'yeux.
Il n'a pas d'yeux. Par contre, il est très sensible à la lumière. Voilà.
Est-ce vrai qu'il mange du caca affiné ? Son caca, en partie. Je sais qu'il mange des végétaux, des matières organiques.
Beaucoup de chiens mangent leur caca. Ouais. Enfin, je veux dire, je parle pas...
Non, ça ne nous paraît pas étonnant, mais on se pose la question.
Certains êtres humains, paraît-il. Non, mais je veux dire que dans certaines pratiques... Mais là n'est pas la question. En fait, s'il remange son caca, c'est parce que son caca est riche en matières organiques. En fait, il ne peut pas le digérer. Il le digère en plusieurs fois. Et surtout, en fait, il le laisse fermenter, c'est-à-dire il le laisse affiner comme on laisse affiner des fromages, tout simplement. Donc il laisse le travail, les levures, en fait, finir de décomposer ce que lui ne peut pas digérer, et après il va le reconsommer. Donc en fait, non, caca, c'est presque un peu excessif. C'est pas du vrai caca.
Comment les vers de terre fertilisent notre sol ? Comment travaillent-ils notre terre ? On en parle dans un instant sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les vers sont des créatures parfaites pour la nature. Ils aèrent le sol, ils recyclent les déchets et...
Et ils écœurent les filles quand on leur en glisse un dans le dos.
RTL.
Excusez-moi, docteur ver de terre. Les vers, ça sent rien du tout. La chaleur, le froid, l'étirement et même quand on les coupe en deux.
La curiosité est un vilain défaut.
Extrait de la série télé Chair de poule, mais nous, les vers ne nous écœurent pas grâce à notre invité, l'agronome Christophe Gatineau, qui nous apprend à les regarder, à les comprendre et à mesurer leur importance pour notre avenir. À nous, ils nous aident à manger, à entretenir nos sols, à respirer, à vivre, et on leur doit le respect. D'ailleurs, vous publiez l'éloge du ver de terre aux éditions Flammarion. Et on découvre avec vous que les vers de terre, en fait, pour comprendre leur action sous terre, ce sont de véritables véhicules. Mais qu'est-ce qu'ils transportent dans leur corps et dans leur déplacement ?
En fait, les vers de terre, c'est vraiment important de repréciser en fait que ce ne sont que le fer de lance en fait du monde du vivant qui vit sous nos pieds. Hein, vraiment, ça c'est important. Alors la particularité du vers de terre, en fait, c'est de par ses allées et venues entre le fond de son terrier et la surface du sol, parce qu'en fait il va venir brouter à la surface du sol, il va constamment mélanger ce qu'on appelle l'argile, les argiles qui remontent des profondeurs, parce que le ver de terre, l'ombrique terrestre, ne mange pas de terre en fait, hein, contrairement à une idée assez répandue somme toute, hein, mais il mange de l'herbe, il a des papilles gustatives, il aime par exemple l'oignon, il aime le chou, il choisit sa nourriture, etc.
Il est gourmet, le ver de terre.
Bien sûr, ses papilles gustatives sont extrêmement développées, comme ont pu le mettre en évidence Darwin ou Marcel Boucher, par exemple. Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que cette chose est bien un animal.
Mais alors, c'est ces déjections qui nourrissent la terre, pour bien comprendre
Bien sûr, la terre, en fait, c'est un milieu épuisable et qui n'est pas naturel, qui a été créé, en fait, par le monde animal. Ce qu'avait mis totalement en évidence Darwin. Alors, la particularité du ver de terre, c'est la seule bestiole qui est capable en permanence de labourer un sol, c'est-à-dire de remuer en permanence ce qu'on appelle la réserve nutritive des plantes, c'est-à-dire que cet épiderme de la terre, cette mince couche en fin de compte où les plantes se nourrissent et où il y a la nourriture pour les plantes tout simplement. Et c'est la seule bestiole qui est capable de faire ça, constamment de remuer en fin de compte, etc. Alors nous, bien sûr, on peut le faire avec une charrue, on peut le faire avec des outils mécaniques, etc. Mais c'est infime et c'est surtout
on est moins efficace quoi en fait.
Surtout on est moins efficace. Aucune technologie ne peut faire aujourd'hui ce que lui peut faire inlassablement en fait. Voilà,
parce qu'il y a le mouvement et il y a ce qui déjecte en fait.
Ce qui est important, c'est qu'en fait on peut toujours le comparer à une vache. Je crois que c'était André Pochon, en fait, cet agriculteur breton, qui disait une vache, c'est une tondeuse à gazon à l'avant et à l'arrière, c'est un épandeur à fumier. Eh bien, avec le ver de terre, en fait, c'est exactement la même chose, puisque ces urines sont directement assimilables par les plantes. Donc, les plantes vont pouvoir directement assimiler l'azote, par exemple, et tous les éléments minéraux qui se trouvent dans son urine, en fait.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, Christophe Gatineau, que malheureusement, aujourd'hui, dans certains sols, qui ont vu trop de pesticides, de produits chimiques. Les vers de terre ont quasiment disparu. Il y a plus que 50 kilos de vers de terre par hectare. Alors que dans un sol naturel, vous disiez une belle plaine normande, il peut y avoir jusqu'à 4 tonnes, hein,
par hectare.
C'est vraiment la barre haute et la barre basse. Ce sol à 50 kilos, enfin, ou quasiment 100 vers de terre, il est quoi? Il est en train de mourir, en fait?
Le monde du vivant a disparu ou s'est enkysté? C'est ce qu'on appelle l'érosion, c'est-à-dire qu'en fait, il est déstructuré et avec les pluies, petit à petit, va rejoindre les petits ruisseaux et ensuite rejoindre via les fleuves, l'océan, c'est-à-dire il s'en va parce que les sols sont une ressource épuisable et non renouvelable à l'échelle humaine. C'est ça qui est important. Et qu'est-ce qui reste derrière? Il reste comme des déserts, c'est-à-dire des sols lunaires. Souvent...
Ça veut dire quand il y a des inondations, par exemple, fortes pluies, ces sols qui sont privés de vie, de vers de terre, ils retiennent moins l'eau, c'est ça?
Ah, ils retiennent. L'eau va rester, de façon, va rester à la surface, mais surtout, comme ces sols ne sont plus vivants, c'est-à-dire que, bien évidemment, il faudrait beaucoup plus de temps pour expliquer que le vers de terre, par ses galeries, en fait, l'eau va travailler à la porosité du sol, va permettre d'oxygéner le sol, et les racines des plantes vont oxygéner, ont besoin d'oxygène pour pouvoir vivre. Donc, on est vraiment dans un système. C'est très important, à chaque fois, de replacer le vers de terre dans un système. système, en fait, dans un écosystème. Voilà.
Vous n'êtes pas le seul à pousser ce cri d'alarme, Christophe Gatineau. Enfin, j'espère, en tout cas, on a bien compris qu'il faut les préserver, ces vers de terre. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Qu'est-ce qui est prévu pour les réactiver, pour qu'ils se reproduisent de plus en plus et pour qu'on leur refasse de la place dans nos terres?
Voilà, c'est un des objets de mon travail, en fait. C'est-à-dire que le vers de terre, aujourd'hui, c'est une chose. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme un animal, il n'a aucun droit. On peut faire, par exemple, je crois que c'est très important de dire qu'aujourd'hui, l'État français investit, par exemple, dans la réhabilitation du loup ou de l'ours. On investit aujourd'hui des millions et des millions d'euros. Et dans le vers de terre, en fait, on investit zéro.
Et ben dans un instant, vous allez nous donner peut-être les bonnes idées. Qu'est-ce qu'on peut faire si on investissait? Et j'espère qu'un jour, on investira pour protéger ces vers de terre. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on vous racontera aussi Pépin le Bref, le premier roi carolingien et le grand oublié de l'histoire. On va lui faire une place aussi dans notre émission. Restez avec nous sur RTL.
C'est l'histoire d'un petit ver de terre.
Je suis un ver de terre, je m'appelle Max.
Oh, tu es un ver de terre?
La curiosité est un vilain défaut.
Le monde est mal fait. Quand vous, les abeilles, vous êtes contentes parce qu'il y a du soleil, nous, les vers de terre, nous sommes malheureux.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Oh, laisse tomber. C'est mon destin d'être un ver de terre solitaire, eh oui. Tiens, un ver de terre solitaire, c'est un comble.
Sur RTL.
On est complètement en gaga du ver de terre dans la curiosité depuis qu'on découvre ces super pouvoirs de fertilisateurs de notre terre. Si nous voulons continuer de vivre en mangeant les produits de cette terre, il faut le chouchouter. C'est ce que nous apprend notre invité, l'agronome Christophe Gatineau. Alors, pour l'instant, on n'investit pas beaucoup dans le ver de terre et la protection du ver de terre, mais on va forcément bientôt s'y mettre, on n'aura pas le choix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le préserver et faire en sorte qu'il se reproduise et qu'il réinvestisse nos sols?
Alors en fait, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des agriculteurs, ce qu'on appelle ceux qui pratiquent l'agriculture de conservation, qui aujourd'hui nourrissent les sols et nourrissent les sols, nourrissent leurs vers de terre en fin de compte.
Avec quoi alors? Qu'est-ce qu'ils mettent?
Ils coopèrent pas, tout simplement. Soit vous allez cultiver des plantes pour les vers de terre et ces plantes, vous n'allez pas les récolter, donc vous allez les laisser sur le sol pour qu'ils puissent venir manger en fait, tout simplement.
Brouter comme vous disiez.
Brouter, ouais. Oui. Moi par exemple, quand je fais mes foins, je fais pas les foins pour nourrir mes brebis comme autrefois ou mes vaches parce que j'ai été vaché, mais simplement pour nourrir mes vers de terre, en fait, il leur faut leur produire de la nourriture. Et autrefois, les paysans étaient dans cette démarche, c'est-à-dire, en fait, il y avait un dicton qui disait, par rapport au blé, on va prendre, c'est très illustrant, en fait, le grain pour le paysan, la paille pour la vie du sol, hein. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on exploite.
Faut partager les ressources, quoi, c'est
voilà.
Ça.
Et aujourd'hui, ouais. On partage pas. C'est-à-dire, on vend la paille et on vend le grain. Il y a plus de résidus. Donc, la première cause de la mortalité des vers de terre et de la biodiversité, c'est qu'ils meurent de faim, tout simplement.
D'un mot, si on peut réintroduire des vers de terre dans un sol qui a été complètement lessivé par les pesticides?
Non. J'ai envie de vous dire non, parce qu'en fait, si on prend le cas du lombric terrestre, et notamment de toute cette catégorie fonctionnelle qu'on appelle les anéciques, en fait, ils sont très difficiles à élever. Bon, évidemment, mais si vous restez quelques spécimens à l'intérieur de votre sol, vous pouvez toujours en incorporer, mais si vous commencez à les nourrir, si vous commencez à les chouchouter, en fait, eh bien, il faut commencer à faire attention. Si vous avez décidé de coopérer avec eux, ce que font certains agriculteurs, bien évidemment, ils vont avoir envie de... S'ils sont bien nourris, ils vont avoir envie de se reproduire. C'est un peu comme nous, finalement.
Il faut chouchouter les vers de terre, message de notre invité Christophe Gatineau. L'éloge du vers de terre, notre futur dépend de son avenir. C'est votre livre chez Flammarion. Merci beaucoup, à bientôt.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.